Ce matin, nous avons fait l'introduction de ce que nous allons voir cet après-midi, à savoir un sujet qui devrait permettre aux chrétiens d'être très sérieux avec leur salut et le salut de leurs proches. J'ai interrogé le Seigneur il y a un mois et demi, sur la raison pour laquelle, dans tant et tant d'églises, on était en train de supprimer les réunions d'évangélisation, on était en train de supprimer les réunions de prière, et ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Moi, ça a été un vrai cas de conscience, et sincèrement, j'en ai parlé au Seigneur. J'ai dit, écoute Seigneur, pourquoi ces choses sont-elles en train d'arriver? Pourquoi les églises sont presque toutes fermées le dimanche après-midi? Pourquoi le mardi soir, les réunions de prière qui étaient bouillantes il y a 30 ans en arrière sont devenues aussi légères et aussi froides? Eh bien, croyez-moi, j'ai eu à cœur de partager ce sujet que j'ai partagé avec vous plusieurs fois de suite, à savoir cette question, sous forme d'une question, « Iras-tu au ciel ou en enfer ?» Et en préparant ce sujet, j'ai vraiment eu la réponse. Le problème, il est là. Puisque de moins en moins, on n'est pas conscient de l'enfer, de l'éternité en enfer, les gens ne réalisent pas que s'ils ne font pas la paix avec Jésus-Christ, ils sont perdus pour l'éternité. Ça fait que les chrétiens sont démobilisés, ils ne voient pas le danger dans lequel les âmes perdues se trouvent, mais ce qui nous préoccupe dans ce sujet cet après-midi, c'est que certains chrétiens eux-mêmes ne se rendent pas compte l'état spirituel de légèreté dans lequel ils se trouvent, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de partager, nous avons vu ce matin deux cas, les deux textes, il y a sept textes dans l'évangile où Jésus emploie cette expression, les pleurs et les grincements de dents. Cette expression dans la bouche du Sauveur lui-même, c'est pas une expression qui est sortie d'un théologien du 3e ou 4e siècle, c'est une expression de la bouche de Jésus lui-même. Rien que cette expression, il y aura des pleurs et des grincements de dents, devrait donner davantage de compassion aux chrétiens. Vous ne le croyez pas? Les chrétiens devraient avoir davantage de compassion. Dire, mais c'est vrai, il y a dans ma famille un enfant, un frère, un oncle, une sœur qui n'est pas sauvée. Je disais ce matin qu'il y a des églises où on ne prie même plus pour que des ouvriers se lèvent. Alors que Jésus a dit, mais priez le maître de la moisson pour que des ouvriers se lèvent. Nous aurons la joie en septembre d'avoir 3 serviteurs de Dieu en formation. Mais moi je crois que Dieu peut faire en sorte qu'il y en ait davantage. Parce qu'il faut former des pasteurs pour prêcher que la colère de Dieu, l'amour de Dieu et la compassion de Dieu, mais sur la colère à venir. Alors ce matin, on a vu les deux premiers textes. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle qu'il y a un texte dans Matthieu au chapitre 8 et un autre texte dans Matthieu au chapitre 13. Et on va voir les contextes. Le contexte de Matthieu chapitre 8, c'était qu'il n'y aura pas de foi. Une foi superficielle. Et Jésus dit, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est adressé aux chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens qui ont une foi superficielle. Une foi, on pourrait dire une foi du dimanche, une foi au cas où, une foi au cas où il y en a besoin, etc. La foi, il faut qu'elle soit linéaire. Là, on se lève avec la foi et on se couche dans une attitude de foi. Le deuxième cas, c'était dans Matthieu chapitre 13, où Jésus parle des chrétiens qui risquent d'aller en enfer. Et qu'est-ce qu'il dit? À cause des scandales dans le royaume et de ceux qui commettent l'iniquité. Et j'ai terminé ce matin le culte en disant que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on cherche la sanctification. Un chrétien, c'est un souci de faire en sorte que dans son comportement, dans ses paroles, dans ses réactions, dans ses loisirs, dans tout ce qu'il a à faire, il cherche à vivre ce que Jésus a enseigné, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Un chrétien, il recherche la sanctification. Sans la sanctification, le verdict, vous le connaissez, nul ne verra le Seigneur. Le troisième texte, c'est dans Matthieu au chapitre 13. Voilà. Je vous rappelle que c'est Jésus qui parle. Parce qu'il y a des endroits où on dit Jésus, Jésus, il est bon, Jésus, il est amour. Et c'est vrai que Jésus est bon et que Jésus est amour, Jésus est miséricordieux. Mais on ne parle que de cet aspect du ministère de Jésus-Christ. Jésus, il est plein d'amour et Jésus, il dit la vérité. Et il est la vérité. Il ne dit pas la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Matthieu chapitre 13, verset 49. Voilà. Les chrétiens, j'ai dit également ce matin, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais j'ai dit ce matin que le pasteur, c'est un homme qui doit veiller à vérifier que tous les chrétiens de son église soient véritablement nés de nouveau, passés par la repentance et la conversion. Voilà à quoi ça sert un pasteur. Peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert. Eh bien voilà, un chrétien, un pasteur, ça prêche l'évangile pour que les âmes passent des ténèbres à la lumière. Et une fois qu'ils sont entrés dans le royaume, un pasteur, il veille et il fait en sorte que les chrétiens restent dans la foi, restent dans la sainteté, restent dans la piété, afin qu'ils soient sauvés. Voilà, Matthieu chapitre 13, verset 49. On va lire le verset 47. C'est la parabole du filet. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Je crois que des fois on répond oui, et je ne suis pas sûr qu'on aurait dû répondre oui. Mes frères et sœurs, avez-vous compris ce que nous avons partagé ce matin ? Avez-vous compris ce que nous venons de lire maintenant ? Les disciples dans la foulée ont dit oui. Peut-être que moi j'aurais dit oui. Mais la piété de certains chrétiens me montre qu'ils n'ont pas compris qu'il va arriver la fin du monde et que Dieu ne se trompera pas. Il séparera les méchants d'avec les justes. Et dans la Bible, les méchants, ce ne sont pas les pécheurs. J'espère que vous me comprenez bien. Dans la Bible, il y a trois catégories de personnes. Il y a les pécheurs, les méchants et les justes. Les pécheurs, ce sont les gens qui n'ont jamais connu la grâce de Dieu. Ce sont des gens qui ne veulent pas de Dieu. Ils sont dans les ténèbres, ils sont nés dans les ténèbres. On est tous nés dans les ténèbres d'ailleurs. Mais ils sont restés volontairement dans les ténèbres. Et puis après, il y a des gens qui sont rentrés dans le royaume de Dieu, mais qui n'ont plus obéi au Seigneur. Et ils sont là, dans le royaume, mais Jésus les appelle les méchants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'ont plus de communion avec Dieu. Les gens, lorsqu'ils lisent ce texte, ils croient que les méchants, ce sont les perdus. Mais les méchants, ce ne sont pas les perdus. Les méchants, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de piété. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, le dernier avertissement, c'est qu'il parle aux églises, que celui qui se souille, se souille. Moi, je n'aurais jamais osé dire un truc pareil. Jésus l'a dit pour expliquer que même dans le royaume, il y a des gens qui marchent pas dans la sainteté, et il y a des gens qui marchent véritablement dans la justice. À la fin du monde, Dieu séparera. La parabole des 10 vierges, on va y revenir, est exactement un petit peu la même image. Ce sont 10 chrétiens qui attendent le retour, mais il y en a la moitié qui ne sont pas prêts. Oui, les méchants, ce sont des croyants qui n'ont pas de piété. Mes frères et sœurs, je nous pose cette question, est-ce que, comme l'apôtre l'enseigne, est-ce que nous exerçons à la piété? Un chrétien qui veut une vraie piété, il lit la Bible, et quand il lit quelque chose, il est sérieux. Avant-hier matin, j'étais touché, pourtant je l'ai lu, mais des milliers, ouais, presque des milliers de fois, si, je peux dire des milliers sans mentir. Quand Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Voilà. À quoi reconnaît-on un homme qui aime Dieu? Parce qu'il connaît des cantiques par cœur ? Non. Parce qu'il garde la parole. Voilà. Jésus, l'amour, c'est pas des sentiments. L'amour, c'est l'obéissance. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Donc, celui qui m'aime, il obéit à ma parole. C'est vrai que Jésus parle du juste. On va le lire ce verset. Parce que quand même, peut-être que des personnes ne comprennent pas. Même si vous répondez oui, on a compris. Moi, je vous dis, la légèreté des chrétiens fait qu'ils n'ont pas compris. C'est peut-être notre faute à nous, pasteurs, qui n'avons pas bien expliqué les choses. Ça, je veux bien le croire aussi. Alors, je vais m'y appliquer. 1 Pierre 4, 18. On peut lire le verset 17, où c'est une épître. La première épître de Pierre nous parle des souffrances des chrétiens et de la gloire des chrétiens. C'est deux thèmes dans cet épître. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça aussi, ça devrait nous faire réfléchir. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et si le juste, voyez, le juste, se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? L'impie, c'est le méchant. Il n'a pas de piété. Il ne cherche pas Dieu, il va à l'église, mais il s'en fiche. Ce soir, après 10 heures, il pourra regarder une saleté à la télévision. C'est pas grave, Seigneur, pardonne-moi, c'est pas grave. C'est ça un impie. C'est-à-dire, il croit en Dieu, mais en même temps, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a mis la barre de la sanctification au niveau qu'il a voulu. Ça, j'estime que c'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. La piété, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez dire, mais je vais prier 2 heures, je vais prier 3 heures. Le Seigneur, il va me tenir compte si je passe 3 heures dans la prière. Vous pouvez prier, vous pouvez faire des sacrifices tant que vous voulez. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça, c'est toute la journée, l'obéissance. C'est un état de cœur. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, on va bien voir que là aussi, c'est une épître sur le jour du Seigneur, quand Jésus revient sur la terre. Ce n'est pas l'enlèvement, c'est le jour du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. » Voyez, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On peut être dans l'église, c'est ça le drame. C'est ça le drame. Bon, c'est très bien expliqué dans les épîtres. On peut être dans l'église du Seigneur Jésus sans le connaître et sans lui obéir. Il n'est pas dit qu'il viendra rechercher les gens qui ne vont pas à l'église. Jésus dit qu'il ne prendra pas les gens qui ne veulent pas le connaître, parce que ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, on le reconnaît à une chose, c'est catégorique, c'est sans appel. Quelqu'un qui connaît Dieu, il a beaucoup de respect pour la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quelqu'un qui connaît Dieu, il tremble. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. La parole de Dieu, on l'écoute, on est sérieux. L'éternité, c'est sérieux. C'est pour ça que je vous dis que les chrétiens ne vont plus à la prière, ils ne vont plus à l'évangélisation, ils ne sont plus intéressés par le salut des âmes, la formation des pasteurs, écoute, c'est les problèmes des pastorales, moi ça ne me regarde pas. Vous allez voir, Jésus a dit à tous les chrétiens de prier le maître de la moisson pour que des ouvriers se lèvent. Parce que si des ouvriers ne se lèvent pas, comment on évangélisera les villes, à part de cloner les pasteurs qui existent. Voilà, mais moi le clonage, je ne suis pas encore pour ça. Dans l'église de Jésus, on recherche la piété. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on recherche la piété. Est-ce que vous êtes d'accord les chrétiens qui êtes ici? Dans l'église du Seigneur, on prend au sérieux tout ce que Jésus dit. On ne fait pas comme ces chrétiens, un petit palais léger, oui l'amour de Dieu, j'en veux bien. L'amour de Dieu, la compassion de Dieu, j'en veux bien. Mais toutes ces paroles, elles sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Alors je vous répète, je vous repose la question, avez-vous compris toutes ces choses? Oui, j'espère que vous avez compris que les chrétiens sont séparés en deux catégories, les justes et les méchants. Ceux qui obéissent parce qu'ils connaissent Dieu et ceux qui n'obéissent pas parce qu'ils ne veulent pas le connaître. À la fin du monde, Jésus va faire le tri. Quatrième texte, Matthieu 22, verset 5. Matthieu 22. Vous connaissez cette parabole. c'est la parabole du festin des noces. C'est une parabole qui indique que sur l'histoire de l'Église, depuis le premier jour où Jésus a commencé son ministère, jusqu'au dernier jour de la grâce, c'est-à-dire le jour où la trompette sonnera et que l'Église sera enlevée, les gens, Dieu les invite cet après-midi. Tout à l'heure, à la Sainte Cène, vous avez eu une invitation. Voilà, c'était une invitation. Dieu ne se lassera pas d'inviter les mondes. Alors cette parabole, je ne vais pas la lire en entier. On va lire à partir du verset 9. « Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblant tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La première partie de la parabole indique que Dieu invite tout le monde et que les gens, presque tout le monde, cherchent des excuses. « Oh, moi, j'ai pas le temps, moi, aller à l'église, me lire la Bible, tu plaisantes, m'occuper de mon âme, mais on verra après. » Alors, Dieu invite, les gens n'en veulent pas. C'est pour ça que dans ce texte, quand il est dit que l'homme eut la bouche fermée, on aura la bouche fermée. Moi, je vous le dis, de la part du Seigneur, quand les gens seront en enfer, il n'y en a pas un qui remettra en question la justice divine à cause de cela. Croyez-moi. Les gens, ils auront la bouche fermée. Il n'y en a pas un qui va s'amuser à dire c'est injuste. Les gens qui seront, sauront très bien que ça aura été parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux les choses de Dieu. Mais il y a ceux qui n'acceptent pas l'invitation. Mais il y a ceux qui invitent l'invitation. La parabole se conclut avec un homme qui a accepté l'invitation. C'est pour ça que je vous disais, même dans les annonces, que beaucoup ont pris le baptême, pensant qu'en prenant le baptême, ils avaient accepté l'invitation du Seigneur. Cet homme a accepté l'invitation, mais il y a un problème. Il n'a pas l'habit de noces. Il a bien compris, lui. Il a compris qu'il fallait accepter Dieu dans son cœur. Mais l'habit de noces représente quoi? L'habit de noces représente justement le fait de revêtir Christ. La Bible dit « revêtez Christ, revêtez-le ». Combien sont rentrés dans l'église? Et cet après-midi, j'espère me tromper, je voudrais me tromper, mais il y a peut-être même parmi nous des gens qui sont entrés dans l'église par le bâtiment, dans le royaume de Dieu, et qui n'ont pas revêtu le Christ. Ils sont passés par le baptême, ça, ils ont fait peut-être même un beau témoignage de délivrance, de guérison, d'intervention divine, que sais-je. Mais ils ne sont pas passés par la croix. C'est pour ça que les gens ne renoncent pas. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il y a des gens, ils veulent bien prendre le baptême parce que Jésus les a sauvés. Ils veulent bien prendre le baptême parce que Jésus les a guéris, parce que le Seigneur est plein d'amour. Et on sait très bien que s'il y a un problème, il va nous aider. Mais ça s'arrête là. Il y a des gens, dès qu'on touche le domaine de la croix, alors que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de la croix. La bénédiction, moi d'accord, j'en veux. La croix, ça ne m'intéresse pas. Voilà, il y a des chrétiens, ils ne renonceront pas. Ah non, moi, le match de foot, oui. La réunion de prière, j'ai choisi déjà. C'est le match de foot. J'ai besoin de me détendre. Ce soir, je suis crevé. Ça me fera du bien de regarder Marseille, Paris Saint-Germain. Ne riez pas, parce que des chrétiens en sont là. Ils préféreront se détendre à la réunion de prière. Et moi, ça ne me fait pas rire, parce que je sais très bien que ce sont ces... Bon, ça, moi, je suis pour la détente. Je suis vraiment pour la détente. Mais je crois que la détente, c'est quand même après avoir obéi à tout ce que le Seigneur nous a demandé. L'Église qui est prête, les chrétiens qui sont prêts, ce sont les chrétiens qui ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Et il est là le drame. Il est là le drame. Pourquoi les gens ne prient plus et pourquoi ce relâchement? Parce qu'on prie le Seigneur Jésus, mais on ne se revêt pas du Seigneur Jésus-Christ. Revêtir Christ, c'est chercher à lui ressembler. Voilà, c'est chercher à lui ressembler. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Voilà, c'est un travail sérieux. Quand Jésus dit à une église, je te conseille d'acheter des vêtements blancs, il n'y a rien à payer, mais ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix de repentance, de sanctification, de recherche, etc. Je te conseille d'acheter, c'est-à-dire de travailler, chercher à lui ressembler. Seigneur, est-ce que je me pose la question? Je nous pose la question. Est-ce que nous sommes soumis à l'autorité de Christ? Tout à l'heure, quand je vais partir, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, peut-être que le Seigneur va vous mettre à cœur quelqu'un, d'aller visiter. On prie, on chante des cantiques qui sont plus beaux les uns que les autres, sur le règne de Christ. Est-ce que vraiment nous sommes soumis à l'autorité de Christ? Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que, c'est sérieux, c'est mon devoir, est-ce que vous êtes sûr d'être soumis à l'autorité de Christ? Ou est-ce que vous faites ce que vous voulez? Moi, je vous assure, des fois, j'ai envie de me pincer quand j'entends certains chrétiens comment ils traitent les choses spirituelles. Ils ne rateront pas le culte, ça c'est vrai, parce que le culte, ça fait partie. C'est presque la preuve que je suis spirituel, mais je peux vous dire, on peut assister à toutes les réunions et avoir une piété de façade. Cette parabole, elle est sévère, dans le sens où on peut avoir accepté le Christ, mais ne pas se revêtir de Christ. C'est Paul qui dit, enfin c'est Dieu qui dit par Paul, dans 2 Corinthiens 5, ne le cherchez pas, vous devez être trouvé vêtu et non pas nu. Il le dit, il y a des chrétiens, ils seront trouvés nus, comme ce gars dans le jardin de Gethsémané, c'était un disciple qui était là au moment où on a arrêté Jésus, et il a fui, et on l'a attrapé par le vêtement, et il est parti tout nu, parce qu'il n'avait rien du tout. Il y a des chrétiens, dès que le vent souffle, ils sont nus, spirituellement, ils n'ont rien. Cette image, elle est terrible. Dès justement que la croix fait son apparition, c'est l'image de Gethsémané, dès que ça se présente, c'est fini. Il n'y a plus d'habit. Le chrétien, il revêt Christ. Jésus a dit, mes brebis, elles connaissent ma voix. Amen. C'est pour ça qu'il faut être sérieux avec la parole. Je reviens sur le texte précédent. Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Matthieu, chapitre 24, 42. Matthieu 24, au verset 42. Veillez donc, combien de fois Jésus a prononcé cette parole. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Le contexte de cette cinquième parole sur les pleurs et les grincements de dents, c'est l'hypocrisie. Vous avez vu, hein, il le mettra avec les hypocrites. Dans l'église du Seigneur, Jésus-Christ, on est sincère et sérieux. Jésus parle des prières hypocrites, de tous ces comportements hypocrites, tous ces pharisiens qui étaient des hypocrites. Jésus a même un jour traité des pharisiens d'hypocrites dans leur propre synagogue. Je veux dire, il a fait fort. Vous vous rendez compte? Mais il l'a fait pour les éclairer parce qu'il ne les aidait pas, il n'aidait pas leurs paroissiens à se préparer à rencontrer Dieu. Et là, dans ce contexte, on voit un homme hypocrite. Alors, c'est vrai que dans l'église de Jésus-Christ, on prend à cœur. Cet homme, il n'a pas pris à cœur. Ce qu'il devait faire, c'est un serviteur. Est-ce que la Bible dit que nous sommes serviteurs les uns des autres? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a confié quelque chose à faire. Quelle est la mission que Dieu vous a confiée? Vous devriez être tous capables de répondre. Tous. Là, ceux qui se sont levés tout à l'heure pour prendre le pain, le vin, les autres, je comprends. parce que vous êtes en voie de découvrir l'évangile, il y a des personnes qui vont prendre le baptême, elles s'interrogent, etc. Elles vont prendre le baptême et certainement dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez que Jésus a dit, quand il a commencé son ministère, il a répondu d'ailleurs ça à Satan, tu l'adoreras, enfin, parlant de Dieu, tu l'adoreras et tu le serviras. Un chrétien, il sert Dieu. Quelle est la mission que Dieu vous a confiée? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, prenez rendez-vous avec moi. Sérieusement. Il faut que vous puissiez dire, moi, Dieu m'appelle à ça. Moi, Dieu m'a appelé eh bien, à m'occuper des enfants. J'ai à cœur les enfants. Alors je m'occupe des enfants de l'école du dimanche. Dieu m'a mis à cœur les ados. Dieu m'a mis à cœur ceci. Dieu m'a mis à cœur de prier tous les jours. Oh, je prie pour moi, je prie pour ma famille, mais j'ai un culte. Après, j'ai un moment de prière pour les uns, pour les autres. C'est mon ministère. C'est ce que Dieu m'a demandé. Et il ne faut pas le négliger. Cet homme, il a négligé, il est devenu un hypocrite, parce qu'on peut, comme disent les jeunes, se la jouer. On fait semblant d'être chrétien. Un alléluia par-ci, un alléluia par-là, une petite prière. Mais le Seigneur, il voit si on fait ce qu'il nous demande de faire, et surtout, comment on le fait. Parce que cet homme, vous avez vu comment il faisait? Il battait ses compagnons. Vous savez, les coups, c'est pas que physique, les coups. On peut frapper, vous le savez, avec la langue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on peut faire du mal avec la langue? Hein? Vous le savez. Et même quand on connaît très bien nos proches, on sait très bien les paroles qui font mal. Et le Seigneur nous demande de ne jamais blesser. Et si on a blessé, de vite demander pardon. Parce que si on ne prend pas l'habitude de demander pardon, on deviendra continuellement blessant, donc continuellement hypocrite. Dans l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur nous met quelque chose à cœur et on le fait. Et on le fait de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est écrit ou c'est pas écrit? Je chante à la chorale, hein, pas moi, ils me veulent pas. Mais je veux dire, je chante à la chorale, je le fais de tout mon cœur. Oui ou non? Parce que ça prépare un auditoire. C'est vrai ou c'est pas vrai que ces deux cantiques que vous avez entendus, ça n'a pas un peu préparé les cœurs? Ben ouais, ça c'est des cantiques. La Bible dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Si vous êtes à la chorale, préparez, travaillez votre voix, etc., etc. Faites-le avec cœur. Vous pouvez faire quelque chose d'autre, mais tous les chrétiens devraient poser au Seigneur la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est venir pas bénis-moi, 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 ça des chrétiens, ça, il y en a assez. Mais des chrétiens qui disent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y en a beaucoup moins. Ce texte nous enseigne qu'il faut s'appliquer à connaître et à faire ce que Dieu veut. Amen. Sixièmement, Matthieu 25, verset 24. C'est la parabole des talents. Ça poursuit ce que nous venons de voir. Le premier, ce que nous venons de voir, là, dans Matthieu 24, 42, ça s'adresse surtout aux serviteurs, en vérité, aux pasteurs. C'est beaucoup approprié aux pasteurs. Ce qui veut dire que pour beaucoup de serviteurs de Dieu, ça se passera pas si bien si on a maltraité les croyants de l'assemblée dont on avait la charge. Là, la parabole de Matthieu 25, c'est clair, ça s'adresse vraiment à tous les chrétiens. Et à partir du verset 23, il y a ce serviteur qui vient rendre compte. Pour deux autres, ça s'est très bien passé, mais pour celui-ci, il y a un problème. À partir du verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. » Vous voyez, c'est plus le sien. « Ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. » Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Cette parabole s'adresse à des hommes et des femmes qui sont sauvés puisque Dieu leur a confié un service. C'est pas difficile à comprendre. Ce sont les chrétiens. Certains s'empressent de faire ce que je viens de dire précédemment, à savoir de savoir ce qu'il faut faire et de le faire avec cœur. Et il y en a, bon, ils ont reçu un talent, mais enfin, bon, il y a d'autres chrétiens dans l'église. Et puis l'église a grandi, mais si c'est pas moi qui le fais, eh bien, ça sera un autre. Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est un danger. Plus une église grandit, plus on est dans le danger de laisser les autres faire le travail. Ça, c'est un piège. Il y a des petites églises, ils sont 30. Ça fait que tout le monde bosse. Mais il y a des églises comme la nôtre, où on est 500 personnes qui fréquentent l'église. Vous comprenez bien qu'il y a des personnes qui se permettent de dire, eh bien, moi, c'est pas grave, c'est fait. Le ménage, c'est toujours fait. Merci Seigneur. La clim, la chauffage, tout ça, ça marche. Merci Seigneur pour les frères. Oh Seigneur, bénis-les. C'est très bien. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je fais du talent? Le contexte, c'est un homme qui ne porte pas de fruits. Il avait tout reçu, et il n'a pas porté. Alors c'est la question que je nous pose, est-ce que également nous n'avons pas tout reçu? Quand nous avons accepté Jésus-Christ, est-ce que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ? Quand vous avez accepté Jésus-Christ, est-ce que vous croyez que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non, ça va mieux, vous savez que des fois j'ai le cœur fragile. Non, ça me rassure, je vous le dis franchement. Bon. Plus sérieusement, très sérieusement, est-ce que c'est important pour vous de porter du fruit? C'est important. Vous savez, vous connaissez la parabole du cep et du sarment? Vous avez vu ce que Jésus dit? Tout sarment qui est en moi, donc c'est un chrétien ça, et qui ne porte pas du fruit, il le coupe et le jette au feu. Et dans la Bible, moi, le feu, je sais maintenant vraiment ce que c'est. Quelle misère, quand même, mon frère, ma sœur, vous savez que vous avez reçu du Seigneur, Dieu comptait sur vous. Moi, je connais des pasteurs qui sont tombés malades parce que dans l'église, plus personne ne travaillait. C'est grave, ça. Des pasteurs qui en sont tombés, mais vraiment malades. Ils faisaient tout, et les gens ne faisaient plus rien. C'est grave. Mais pour Dieu, on a un cantique qui dit « Dieu peut-il compter sur nous ?» Vous connaissez ce vieux cantique? On le chante de temps en temps. « Dieu peut-il compter sur nous ?» Dieu compte sur vous pour l'œuvre de Dieu. Moi, je me réjouis quand j'entends qu'une équipe de l'Église, comme ce matin, disait que hier, ils ont été distribuer des évangiles. Moi, je me réjouis quand un chrétien, comme je vous disais, d'une église de Toulouse, a eu à cœur d'acheter 207 000 Évangile. Dieu va le bénir à cet homme. Il a mis toutes ses économies pour faire quelque chose. Alors, je crois que Dieu le lui a demandé. Il pouvait le faire. Ne faites pas quelque chose que vous ne pouvez pas. Il n'y a rien de pire. Mais Dieu compte sur l'Église. Dieu nous a sauvés, que son nom soit béni. Mais maintenant, il compte sur nous. En toute humilité, je vais le dire peut-être pas bien, mais imaginez que j'ai refusé de répondre à l'appel. Est-ce que vous pensez que ça aurait été bien pour l'Église du Seigneur? Est-ce que vous allez vous répondre maintenant. Est-ce que ça valait la peine que je rentre dans le ministère? Oui, il y a 8 amens. Ben c'est bien. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Si j'avais refusé, ça, vous allez me dire, personne n'est irremplaçable, d'accord. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si j'avais refusé, ça aurait quand même pu être une perte pour l'Église. Et ça, je dis en toute humilité, que personne ne me prenne pour un orgueilleux, mais je vais être vraiment vrai. Est-ce que vous comprenez? Et pour chaque chrétien, c'est pareil. À partir du moment où un chrétien ne fait pas ce que Dieu lui demande, ça met en porte-à-faux l'œuvre de Dieu. Dieu compte sur vous. C'est peut-être pour l'évangélisation. C'est peut-être pour entourer les nouveaux. Il y a des personnes nouvelles cet après-midi. Eh bien, peut-être qu'à la place de partir vite, peut-être que moi, je ne pourrais pas entourer tous les nouveaux. Nathanaël, Monsieur de Dieu et tous ceux qui le font d'ordinaire ne peuvent pas. Mais peut-être que Dieu comptait sur vous pour entourer un nouveau. Quand je me suis converti, j'ai demandé au pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, à la fin des cultes, à la fin des réunions, va à la sortie et accueille les nouveaux. Et bien voilà, on a vu plein de personnes et bien être bien accueillies, bien entourées. Dieu compte sur vous pour l'évangélisation, pour entourer des frères, pour les gens qui ne peuvent plus venir, pour faire une visite de temps en temps, pour la mission, pour les offrandes. Ah, ce sujet tellement difficile à apporter dans une église. Et c'est vrai en plus. Mais on devrait quand même, je crois, dans une église où on est vraiment dans la liberté des enfants de Dieu, être capable de parler des finances d'une manière très intelligente et très constructive, dans le sens où nous, en plus, on s'applique à cela. Mes frères et sœurs, est-ce que vous faites, là, dans ce domaine, ce que Dieu vous demande? Ou est-ce que vous dites, ah, mais moi, de toute façon, moi, l'église, elle marche, ça marche bien, c'est pas grave si j'apporte pas mon offrande. Mais quand vous passerez devant Dieu, vous vérifierez que vous ferez partie de ces chrétiens qui ont été paresseux, et vous vous trouverez dans les ténèbres, dans les pleurs et dans les grincements dedans. Demandez-le à Dieu. C'est pas à moi de vous le dire, c'est pas à votre voisin, ce n'est pas à moi de vous dire, il vous faut donner ci. Non. Je crois que c'est une question assez sérieuse pour que Dieu vous montre ce que vous avez à faire pour lui. Et en plus, ça mènera la bénédiction de Dieu sur votre vie. Mais ça, vous le savez. Le dernier exemple où on voit les pleurs et les grincements dedans, c'est dans Luc au chapitre 13. Dans l'évangile de Luc, c'est une prophétie pour moi qui est, pour ainsi dire, la plus terrible du Nouveau Testament. Luc chapitre 13. C'est terrible cette prophétie. Moi, ça m'a donné le sérieux de prêcher cette parole, ce chapitre 13 de Luc. Luc chapitre 13, verset 23. Quelqu'un dit à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Vous voyez que ce n'est pas lui qui force, c'est nous qui devons nous efforcer. « Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues, nous assistions au culte tous les dimanches. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. Le problème, il est au verset 34, c'est Jérusalem, mais on pourrait mettre chrétien de Toulouse, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voilà, ce contexte, c'est ceux qui ne veulent pas passer par la porte étroite. La porte étroite, les chrétiens, ils n'en veulent pas. Le chemin large et spacieux, c'est plus commode. On fait croire aux gens qu'accepter l'évangile, c'est facile. Jésus, lui, il nous parle de la porte étroite, du chemin étroit. Mais aujourd'hui, le diable, et je pèse mes mots, a réussi à proposer une religion où il y a l'amour de Dieu, toute la bonté de Dieu et surtout un chemin large et spacieux. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que beaucoup de ces croyants se retrouveront devant la porte fermée et diront « Mais attends, mais Seigneur, mais attends, on a mangé avec toi !» Tu te rends compte l'intimité qu'on a eue avec toi. Parce que quand on prend un repas avec quelqu'un, il y a une intimité quand même, vous comprenez. C'est l'image de la communion, le repas. Et cette prophétie, elle est terrible parce que Jésus, en plus, il utilise un mot terrible, beaucoup. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens, eh bien, se contentent de l'approprier. Je vous disais, c'est pour ça qu'il n'y a plus de réunion d'évangélisation, c'est qu'on abandonne la réunion de prière, on ne prie plus pour les âmes perdues, parce qu'on n'a plus la notion de l'enfer éternel. C'est pour l'éternité, c'est pas pour 100 milliards d'années. Si c'était que 100 milliards d'années, c'est pas un problème. Mais ça n'aura pas de fin. C'est éternel. Les gens, ils seront dans les pleurs et les grincements dedans pour l'éternité. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux ces 7 textes où Jésus nous parle de ce danger que sont en train de vivre certains chrétiens parce qu'il n'y a pas de foi, parce qu'il n'y a pas de sainteté, parce qu'il n'y a pas de service joyeux, parce qu'il n'y a pas de réaction justement au don que Dieu nous a donné et parce que on s'autorise à croire que être chrétien, c'est facile, mais la porte de l'humiliation, ça non, moi l'humiliation, ça, c'est pas la peine. La porte de l'abnégation, de la repentance, les gens, ils n'en veulent pas. On chante des fois ce beau cantique, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Des fois, je me dis, est-ce qu'on devrait le chanter? Il faut continuer à le chanter. Mais vous vous rendez compte, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris que dans le royaume de Dieu, le chemin, il est étroit. On ne fait pas n'importe quoi. Je l'ai dit de plusieurs manières, on ne va pas n'importe où. On ne fait pas n'importe quoi. Moi, je vois une chrétienne me demander l'autre jour, mais est-ce qu'on peut pas aller danser? Est-ce qu'on peut pas aller en boîte de nuit? Mais je dis, mais allez-y en boîte de nuit. Vous avez tellement envie d'y aller. Mais vous risquez d'y rester dans la boîte de nuit.
Parce qu'après tout, est-ce que vous voulez dire... Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un veut y aller, écoute, de toute façon, il finira par y aller. Mais moi, je crois qu'un chrétien, il rejette les ténèbres. Mes frères et sœurs, vous choisissez. Jésus a dit « choisissez ». C'est pas vrai? Je répète ce que j'ai dit. On le lit, parce que quand même, ça vous prouve que Dieu respecte notre liberté. D'ailleurs, dans cette prophétie aussi grave, Jésus ne dit pas « je vais vous forcer, vous ne vous rendez pas compte ». Et forcez-vous. Parce que si on ne le fait pas de bon cœur, de toute façon, ça ne servira à rien. Si on ne le fait pas par conviction, ça ne servira à rien. Alors, on va pas vous forcer. Croyez-moi qu'on va pas vous forcer. Mais moi, j'ai été bouleversé en lisant, dans l'Apocalypse, au chapitre 22, ce dernier avertissement. C'est un avertissement. Il y en a tout le long de la Bible, mais ça, c'est le dernier. Apocalypse 22, et les dernières choses, elles devraient être prises au sérieux. Croyez-moi. Je l'ai lu, je vous en ai parlé tout à l'heure. Apocalypse 22, verset 11. « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Mais voyez, dans l'église de la fin des temps, on veut le chemin de la liberté. On veut des églises, d'accord, mais on n'a pas à recevoir des ordres. On veut bien aller dans une assemblée, on veut bien aller au culte tous les dimanches, c'est déjà pas mal, mais on veut la liberté. Et en plus, on utilise des textes bibliques, hein, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, donc je fais ce que je veux. Mais cette liberté, ce n'est pas la liberté, c'est la permissivité. On fait ce que l'on veut. Et je peux vous dire que depuis mai 68, on a enseigné ça dans notre chère France, hein, interdiction d'interdire. Ça, c'est le slogan de mai 68. Je peux vous dire que ça a fait du mal, croyez-moi, à la nation. Oui, Dieu est amour, et Dieu est miséricordieux, et Dieu est sur son trône, et Dieu va venir chercher l'Église. Mais quand Jésus prendra l'Église, la miséricorde sera terminée. Alors, cet après-midi, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux les choses de Dieu? N'est-ce pas de mon devoir de veiller sur vos âmes? De veiller vraiment sur... Voilà le serviteur qui fait valoir le talent. Eh bien, si Dieu m'a donné le talent de la prédication, eh bien, je dois veiller sur vos âmes. Alors, on va fermer les yeux quelques instants. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi, ça va pas. Si Jésus revient, si je meurs ce soir, mais je m'en vais en enfer. Je vais connaître les pleurs et les grincements dedans. Moi, je vis dans le concubinage. Moi, je vis dans le mensonge. Moi, je regarde des films pornographiques. Mais vous êtes perdus. Ah, moi, je vous le dis. Et tout le reste... Vous êtes perdus. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas faire partie des méchants. Je veux faire partie des justes. Les justes, ils obéissent. Je ne ferai pas d'appel pour que les gens viennent sur le devant. Juste un appel peut-être si quelqu'un veut se lever. Parce que vous savez, c'est sérieux cette affaire. Et en vous levant à votre place, vous prenez peut-être la décision de dire, Seigneur, il faut que ça change. Il faut que je me sanctifie. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever et dire, je veux qu'on prie pour moi. Je ne veux plus continuer dans cette vie d'hypocrisie, de paresse, dans cette vie de religiosité, dans cette vie d'impureté. Je veux une vraie foi. Une vraie sainteté. Je veux un vrai service joyeux. Je veux rester sur le chemin étroit. Je veux, Seigneur, faire valoir le talent jusqu'à la fin. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se lever? S'il y a quelqu'un d'autre qui désire qu'on prie, venez. Nous sommes dans la maison de Dieu. N'importe qui a le droit de venir pour qu'on prie pour lui ou pour elle. Il y a peut-être quelqu'un qui... Vous avez peut-être honte, mais il vaut mieux avoir honte maintenant qu'avoir honte plus tard. Parce que cette honte-là, vous ne pourrez pas la corriger. Mais aujourd'hui, vous pouvez la corriger. Je m'adresse vraiment aux chrétiens de nom, aux chrétiens légers. N'hésitez pas, Dieu vous aime, la porte est ouverte. Mais cette prophétie nous rappelle qu'un jour, la porte sera fermée. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit, moi, je veux mettre ma vie en règle? Vous savez, fin février, il y aura des baptêmes. Peut-être que ce sera votre tour de vous engager vraiment avec Dieu. Soyez sérieux avec Dieu. Nous allons aller dans un monde de légèreté, de permissivité, d'apostasie. Mais dans cette assemblée, que Dieu nous garde de ces choses. Alors si quelqu'un veut redonner sa vie à Dieu, vraiment la lui redonner, toi qui as enterré le talent, déterre-le en venant sur le devant. Et dis, Seigneur, je vais revenir à la prière. Je vais retrouver le fardeau des âmes. Je vais revenir à l'évangélisation. Je vais revenir à la sainteté. N'hésitez pas, n'ayez pas honte, moi je vous le dis, vraiment de bon cœur, nous sommes tous à la même enseigne. Nous avons tous des hauts et des bas. Alors laissons le Saint-Esprit conduire ce moment de louange. Mon frère, ma sœur, ne passez pas à côté de ce moment où Dieu peut vous redonner cette ferveur. Je ressens dans mon esprit que plusieurs se privent, ils n'osent pas se lever. On n'est pas ici pour vous juger, et même Dieu ne vous jugera pas. Dieu, il vous dira, je te pardonne, mais va et ne pêche plus. Plusieurs sont dans ce cas. Plusieurs sont embarrassés. Ne le soyez pas. Dieu vous aime. Saisissez sa main comme si vous étiez naufragé dans la mer et que Dieu vous tende une corde. Saisissez cette corde et retrouvez le chemin de la croix, le chemin de la vraie liberté. Approchez-vous. Approchez-vous sur le devant. Donnez votre vie à Jésus-Christ, chrétien qui avait abandonné la sainteté, chrétien qui avait abandonné le service. Revenez à Dieu. Revenez à Jésus, impliquez-vous dans l'œuvre de Dieu, faites ce que Dieu vous demande, et Dieu vous bénira. Alléluia.